Éternel Dieu, on est en train de considérer, de soupeser, de prendre connaissance de ta gloire, de ta majesté, de ta sainteté, de ta grandeur. Combien tu es unique, combien tu es saint. Père éternel, tu t'es fait connaître à nous, tu t'es approché de nous, Seigneur. On te demande de disposer nos cœurs ce matin, par l'œuvre de ton Esprit Saint, à recevoir cette parole et qu'elle vienne nous transformer, qu'elle vienne nourrir cette communion que tu désires avoir avec nous, malgré ta grandeur, ta majesté, ta splendeur et notre petitesse devant toi, Seigneur. Viens parler à nos cœurs ce matin. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen.
Pour introduire l'exposé biblique de ce matin, dans le cadre de la série Saint, 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 je vais lire deux passages bibliques. Un qui se trouve dans le livre de Deutéronome et l'autre dans le livre de 1 Pierre. Deutéronome au chapitre 7, versets 6 à 8. Version parole de vie. Deutéronome 7, versets 6 à 8. Vous êtes un peuple consacré au Seigneur votre Dieu. C'est vous que le Seigneur a choisi parmi tous les peuples de la terre pour être son trésor. Le Seigneur s'est attaché à vous et il vous a choisi. Mais ce n'est pas parce que vous êtes plus nombreux que les autres. Au contraire, vous êtes le plus petit de tous les peuples. Mais le Seigneur vous aime et il a fait ce qu'il avait juré à vos ancêtres. C'est pourquoi par sa grande puissance, il vous a fait sortir d'Égypte où vous étiez esclaves. Il vous a libéré du pouvoir du Pharaon, roi d'Égypte. Le deuxième texte, 1 Pierre au chapitre 2, versets 9 et 10. Version 8 secondes. 1 Pierre 2, versets 9 et 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen.
C'est la parole de Dieu. Merci, Serge. En ce matin, en commençant, je veux juste vous avertir, le message de ce matin va être hyper théorique. Ça ne sera pas pratique du tout. Alors, pour tous ceux qui aiment des tout doux, comment on fait ça avec des étapes, vous allez rester sur votre fin ce matin, ça va être de la théorie. Mais j'ai quand même pensé à vous, donc je vais vous lancer un petit défi pratique, puis après ça on passe à la théorie, c'est bon? Petit défi pratique pour l'été. On commence l'été, le défi que je veux vous lancer, juillet, août, deux mois, vous invitez pour chaque mois une personne, quelqu'un de l'église que vous ne connaissez pas à manger chez vous, c'est bon? Puis on laisse personne en reste, s'il vous plaît, de grâce. Les couples, n'invitez pas que des couples. Invitez des personnes seules, invitez des jeunes, des petits vieux, des rouges, des noirs, des bruns, n'importe quelle couleur, d'accord? On se mélange cet été, c'est ça que l'Évangile est censé produire ici, c'est bon? Et puis pour ceux d'entre vous qui êtes des braves, là des vrais de vrais, là, des grands courageux, vous invitez chaque mois quelqu'un de l'Église. Puis pendant l'été, vous invitez un voisin que vous ne connaissez pas vraiment. C'est bon ça? Un collègue de travail avec qui vous aimeriez connecter, vous ne les connaissez pas vraiment, invitez-les à manger chez vous. Pas d'agenda, juste le plaisir de faire connaissance puis de connecter ensemble. Est-ce que ça, c'est concret? C'est bon, je compte sur vous? Ouf, je compte sur vous? OK, c'est bon. On passe à la théorie maintenant. Fini la pratique. Je vous rappelle, on est dans la série sur la sainteté. La sainteté de Dieu. Puis la semaine dernière, on s'est concentré sur la personne de Dieu. Qu'est-ce que ça représente, sa sainteté? Ce matin, on va aller un petit peu plus dans qu'est-ce que ça veut dire pour nous, d'accord? Mais la semaine dernière, on a considéré la grandeur de Dieu, combien il est majestueux. Et ce matin, je voudrais introduire l'exposé de ce matin en citant un passage qui va peut-être vous sembler ne pas avoir rapport du tout. Aucun lien avec la sainteté de Dieu. Il y a un livre dans la Bible qui est extrêmement beau, qui est troublant, qui parle d'amour. Qui parle d'amour entre un homme et une femme de manière absolument sublime. C'est un livre poétique. Et si on est moindrement sensible à la poésie, c'est un livre troublant de savoir que ça se trouve dans la Bible, d'accord? Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses là-dedans. Et j'espère bientôt pouvoir regarder ce livre-là avec vous. J'aimerais vraiment ça. Il s'agit du Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques parle de la relation entre un homme et une femme, une relation amoureuse. Maintenant, à la lumière de l'ensemble des Écritures, à la lumière de ce que l'apôtre Paul enseigne sur le mariage et sur la relation entre Christ et son Église, on apprend que nos mariages sur terre, mon mariage avec Esther, est une métaphore, c'est une image qui parle d'une noce céleste qui s'en vient, d'un mariage céleste. Et donc, dans ce sens-là, dans cette mesure-là, le livre du Cantique des Cantiques, dans tout ce qu'il a de plus intime, de plus beau, de plus amoureux, nous parle aussi de la relation que Dieu veut avoir avec nous. Et donc, je vais vous lire un verset. Je ne sais pas si vous avez déjà considéré que Dieu vous dit cela. Et c'est la relation qu'il veut avoir avec vous. Cantique des Cantiques, chapitre 6, versets 2 et 3. Mon bien-aimé est descendu à son jardin, au parterre d'aromates, pour faire paître son troupeau dans les jardins et pour cueillir des lys. Voici ce qui m'intéresse. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Dans le passage, un des deux passages que Serge nous a lu tout à l'heure, Dieu dit d'Israël, du peuple d'Israël, qu'Israël est son trésor. Vous utilisez cette expression-là avec vos enfants? Mon petit trésor, mon trésor, de quoi ça parle? Ça parle d'affection, ça parle d'amour. Je ne sais pas si vous concevez votre relation avec Dieu dans un langage aussi amoureux que celui-là, et si vous êtes capable d'imaginer que Dieu prononce des paroles semblables sur vous. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Et pourtant, c'est la relation que Dieu désire avoir avec nous. C'est le regard qu'il veut poser sur nous, et qu'il veut que nous posions sur lui. Ce matin, on va voir ensemble que le Très-Saint veut être près de nous, très près de nous, et nous consacrer à sa gloire. Et ça, c'est un appel incomparable. C'est un appel extraordinaire. Le Très-Saint veut être près de nous. Et ce matin, ce que je vais faire, c'est qu'on va se promener dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. On va aller dans différents passages. D'accord? Ça va aller un petit peu vite. Pour certains d'entre vous, il va y avoir beaucoup de révisions ce matin. Mais je veux simplement souligner cette idée que ce Dieu incomparable, majestueux et grand veut s'approcher des hommes et veut entrer en relation intime avec les hommes. Veut nous consacrer à lui, veut habiter avec nous. Il veut habiter avec nous. Le Très-Saint veut être près de nous. Il appelle et il vient vers nous. Si vous vous rappelez un petit peu ce qu'on a vu la semaine dernière sur la personne de Dieu, lorsqu'on a essayé de définir c'est quoi la sainteté, on a dit « saint » tout simplement, le mot « kodesh » qui est là, tout simplement veut dire qu'il est à part, qu'il est différent, qu'il est séparé d'eux, qu'il est complètement dans une classe à part. Et donc, on s'est rappelé que Dieu existait. C'est même pas un bon terme. Que Dieu existe avant toute chose. Que Dieu existe hors de toute chose. Que lorsqu'on prend l'échelle le plus grand qu'on est capable de prendre, la plus grande distance, il est au-delà de cela. On a vu à la lumière de ça que Dieu est incomparable. En théologie, on appelle ça l'unicité de Dieu. Chacun d'entre nous, dans notre personnalité, on est unique, mais à quelque part, on se ressemble tous. Quand je veux comprendre un peu ce qui se passe dans ma tête, je regarde comment tu penses, comment tu réfléchis. Je t'écoute parler, je me comprends mieux. Dieu n'a pas de point de comparaison. Parce qu'il est absolument unique et dans une classe à part. On a vu ensemble que sa sainteté est souvent dans les Écritures associée à sa beauté, à sa majesté, à sa gloire. Et donc ce Dieu qui est saint, 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 est ce qu'il y a de plus sublime dans l'univers par ses perfections, par sa gloire, par sa majesté, par sa grandeur. Il est la référence ultime de la beauté, de la majesté, de la gloire. Et enfin, on a vu la semaine dernière que sa sainteté nous parle aussi de sa perfection morale. Dieu est saint aussi dans le sens qu'il est absolument pur. Il n'y a pas en lui de zone d'ombre. Il n'y a pas de garde-robe fermée avec Dieu, il n'y a rien de caché. Ses motifs sont toujours purs, sont toujours droits. Alors lorsqu'on vient avec cette idée-là ce matin, avec un passage comme celui du Cantique des Cantiques et qu'on aborde cette idée que ce Dieu grand, saint, majestueux veut être près de nous, c'est absolument extraordinaire à considérer. Voyez-vous, par réflexe, l'être humain imagine soit Dieu trop grand, trop loin, trop distant pour être près de lui. Certaines personnes que vous connaissez, certains d'entre vous dans la salle ce matin, votre vision de Dieu, c'est qu'il est tellement grand, quand vous êtes dans des difficultés, c'est impossible pour vous de concevoir qu'il est là près de vous. Il est beaucoup trop grand. Alors, soit l'être humain imagine Dieu trop grand, trop loin, trop distant, ou encore, pour réussir à sentir qu'il est près de Dieu, il va se faire un tout petit Dieu, un petit mini-Dieu, un petit Dieu chien de poche qui va pouvoir traîner avec lui puis qui va être gentil. Il va pouvoir faire des câlins. C'est un petit Dieu patte de lapin. Un petit gris-gris que tu peux garder dans tes poches puis tu sors de temps en temps quand tu as besoin de Dieu. Voyez-vous, on a ce réflexe-là. Soit qu'il est trop grand, trop saint, trop loin, ou soit que pour réussir à se sentir près de lui, bien, on va le mettre dans notre poche, il est tout petit, il est mignon, comme notre petit caniche sushi. Il est pratique quand tu as besoin de te faire consoler, tu appelles sushi, puis il vient sur tes petites jambes. Il te fait du bien. Mais est-ce que ce n'est pas extraordinaire, au contraire, de connaître Dieu tel qu'il se révèle dans sa parole? Grand, majestueux, extraordinaire. La seule manière de concevoir Dieu, si Dieu est l'auteur de l'univers, c'est pas sushi, vous comprenez? Un caniche de 9 livres. C'est mon chien sushi. Tout petit. Si Dieu est l'auteur de toutes choses, il n'est pas comme ça. Mais ça devient extraordinaire à ce moment-là de considérer que ce Dieu-là veut être près de nous. Il veut s'approcher de nous. Et ça veut dire évidemment que pour que Dieu soit près de nous, c'est lui qui va devoir prendre l'initiative. Je ne peux pas définir Dieu. C'est comme si je m'approchais d'un porte-avions. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé près d'un porte-avions militaire. C'est titanesque, c'est le cas de le dire. Et je m'approche à 2 pieds de ça. Toutes les lectures que je vais en faire pour essayer de comprendre de quoi je me tiens vont être faussées. Mais c'est la même chose avec Dieu. Si Dieu ne prend pas l'initiative de se révéler à nous, c'est impossible pour nous de saisir qui est Dieu. Toutes les lectures que nous allons faire de lui vont être faussées parce qu'il est trop grand. Et donc Dieu doit prendre l'initiative de se révéler à nous. Est-ce que Dieu a commencé à se révéler à toi? Est-ce que dans ton cœur, il y a cet appel de Dieu où tu dis: J'ai essayé de concevoir Dieu, mais je sens dans mon cœur, je sais en moi-même qu'il me cherche et qu'il veut se faire connaître à moi. Dieu doit prendre cette initiative, autrement on ne pourra pas le connaître. Et voyez-vous, lorsqu'on retourne dans l'Ancien Testament, puis on lit tout l'Ancien Testament, il y a un peuple, un tout petit peuple, on l'a lu tout à l'heure, un peuple qui était par son nombre insignifiant. Honnêtement, par sa puissance, totalement insignifiant. Mais Dieu a choisi de se faire connaître à Israël. Dieu a pris cette initiative. C'est pas parce que Dieu a pris son gros scan, puis il a survolé toute la terre, puis il a dit « Oh, wow! » Il y a un joyau, là. Il y a une perle extraordinaire. C'est pas parce qu'Abraham était le seul homme sur terre qui cherchait Dieu, non, mais Melchisédek aussi. Pour ceux qui sont familiers un peu avec l'Ancien Testament. Mais Dieu a choisi Israël, a choisi ce peuple-là. Il s'est fait connaître à eux. Il est venu vers eux pour se révéler à eux comme à aucun autre peuple sur la terre. Et c'est la seule manière de connaître Dieu. Alors, quel privilège, quelle grâce de connaître Dieu, sachant que ça nous est impossible de le connaître s'il ne fait pas les premiers pas pour se révéler à nous. Et donc, dans l'Ancien Testament, Dieu s'est fait connaître à Israël comme à aucun autre peuple sur la terre. Dans Deutéronome 7, on a lu tout à l'heure, « Vous êtes un peuple consacré au Seigneur votre Dieu. C'est vous que le Seigneur a choisi parmi tous les peuples de la terre pour être son trésor. » Essayez de mesurer le privilège qu'il a. « Le Seigneur s'est attaché à vous et il vous a choisi. » Mais ce n'est pas parce que vous êtes plus nombreux que les autres, plus glorieux, plus majestueux, plus puissants. Au contraire, vous êtes le plus petit de tous les peuples. Mais le Seigneur vous aime et il a fait ce qu'il avait juré à vos ancêtres. C'est pourquoi, par sa grande puissance, il vous a fait sortir d'Égypte où vous étiez esclaves. Il vous a libéré du pouvoir du Pharaon, roi d'Égypte. Pour que nous connaissions celui qui est trois fois saint, majestueux, au-dessus de toute chose, celui qui est, il doit prendre l'initiative de venir se révéler à nous. Autrement, c'est impossible pour nous de le connaître. Et donc, Dieu a pris l'initiative, il a choisi Israël, il s'est fait connaître à eux, il a envoyé ses prophètes pour se révéler à eux. Les écrits des prophètes ont été inscrits dans ce livre qui est l'Ancien Testament, toute la première partie de la Bible. Et donc, Dieu se révèle progressivement à travers ses prophètes de plus en plus à la nation d'Israël. Les écrits sont là, les paroles sont écrites, sont transmises, sont rapportées, puis un jour vient où Dieu s'approche davantage des hommes. Ça avait été annoncé par les prophètes. Un jour vient où le Très-Saint vient parmi les hommes, comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Emmanuel, Dieu parmi nous, Jésus-Christ. On arrive dans le Nouveau Testament, les prophètes avaient annoncé que le Fils viendrait, que ce Fils serait l'incarnation même de Dieu. Parce qu'on l'appellerait Père admirable, Dieu parfait, Dieu très saint. Et donc après s'être approché de nous à travers les prophètes, après s'être approché d'Israël, Dieu s'est approché de nous en venant marcher parmi les hommes. Connaître Jésus-Christ, c'est lire les évangiles pour reconnaître en Jésus-Christ Dieu le Fils, qui est venu marcher parmi les hommes. C'est Dieu qui, dans sa grandeur, sa majesté, a décidé de venir vers nous pour se faire connaître. Encore une fois. Et encore une fois, il n'est pas donné à tout le monde de le connaître. Parce qu'il doit choisir de se faire connaître à nous. Achetez 1000 Bibles. Allez les distribuer à 1000 personnes que vous connaissez, quelques-uns d'entre eux connaîtront Jésus-Christ. Seulement. Les écrits sont là. Dans Jean 15, Jésus dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi. » Alors si ce matin, dans ton cœur, il y a cette conviction profonde que tu connais Dieu, que tu connais personnellement Jésus-Christ, tu devrais fondre en larmes ce matin. Ton cœur devrait trembler de reconnaissance parce que le Très-Saint a choisi de t'aimer, de se faire connaître à toi. C'est une grâce absolument extraordinaire, une grâce merveilleuse. Quelques implications pratiques, même si j'avais dit que ce ne serait pas pratique ce matin. Essayez pas d'imaginer Dieu comme vous l'aimeriez. Laissez faire le petit Dieu chien de poche. Essayez pas de vous dire « Dieu est tellement loin que je ne pourrai jamais le connaître ». Ouvrez la Bible et cherchez Dieu. Puis mettez-le au défi. « Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi. Je te cherche. Je te cherche. » Parce que Dieu désire et aime de telles prières. Est-ce que Dieu t'appelle? Est-ce que Dieu a commencé à faire vibrer quelque chose dans ton cœur? Tu dois répondre à cet appel-là. Personnellement, j'ai résisté à cet appel pendant des années. Je savais que j'étais en train de courir comme un fou par là-bas pour essayer de fuir Dieu. C'est complètement stupide en passant. On parle de Dieu. Je veux dire, je me retourne puis il est rendu là. Je ne peux pas fuir Dieu. Et un jour, je suis tombé à genoux et j'ai dit, « OK, Seigneur, je veux te connaître. Tu me poursuis depuis tant d'années. » Est-ce que Dieu a commencé à t'appeler? Est-ce que Dieu court après toi? Tu dois répondre à l'appel. Tant et aussi longtemps que tu vas te sauver, tu ne le connaîtras pas vraiment. Tu vas avoir cet appel sourd dans ton âme qui va être là, ce bruit sourd qui est là. Tu entends la voix de Dieu qui court après toi à travers toutes sortes de circonstances dans ta vie, à travers des passages des Écritures qui reviennent à ton esprit, à travers des convictions qu'il produit dans ton cœur. Son esprit est déjà en train de faire une œuvre. Parce que personne vient au Fils si le Père ne l'attire et il le fait par son esprit. Mais tu dois répondre à cet appel-là. Et si dans ton cœur, tu sais que Dieu s'est approché de toi, arrête de douter. Arrête de douter. Si tu connais Jésus-Christ personnellement, cesse de douter complètement. Renonce à cela. Il t'a prouvé son amour en versant son sang. Shakespeare peut aller se cacher. Il n'a pas inventé l'amour passionnel. C'est Dieu qui l'a inventé. Et si c'est Dieu qui appelle, si c'est Dieu qui vient vers nous, il découle de ça que c'est Dieu qui crée son peuple. C'est Dieu qui crée son peuple. Parce qu'on ne peut pas entrer dans sa présence dans nos propres termes et conditions. C'est lui qui doit s'approcher de moi et c'est lui qui va me préparer à entrer dans cette relation avec lui. Et donc, c'est ce que Dieu a fait avec Israël. Il est allé les chercher alors qu'ils n'étaient pas un peuple, esclaves en Égypte, mêlés dans leur esprit à adorer toutes sortes de dieux en Égypte, mais en même temps, ayant entendu parler du Dieu de leur père Abraham, complètement confus, il les a délivrés de cet esclavage-là. Le langage utilisé, c'est qu'il les a rachetés. Puis il les a conduits au désert pour leur faire la cour. Pour leur faire la cour. C'est ça qu'il a fait. Et là, il les a consacrés. Le langage qu'on a vu la semaine dernière dans le passage où Ésaïe est devant la majesté divine, Ésaïe voit la gloire, la majesté de Dieu, et dans son âme, il y a une conviction profonde qu'il ne peut être comme ça dans la présence de Dieu, qu'il est condamné à mourir parce qu'il est en présence du Très-Saint. Alors voyez-vous, il y a le langage du rachat, racheté de cet esclavage en Égypte, mais aussi purifié, lavé. Et donc dans cette image, on a vu la semaine dernière un séraphin qui vient vers lui et qu'il touche avec une pierre ardente pour le purifier, pour le laver. D'où tout le système sacrificiel dans l'Ancien Testament. Une des tribus qui était consacrée à la purification du peuple à travers des sacrifices, mais qui annonçait un véritable sacrifice qui viendrait. Une véritable purification lorsque Dieu s'approcherait encore plus des hommes. Lorsqu'Emmanuel serait là, Dieu parmi nous, et viendrait s'offrir lui-même en sacrifice sur cette croix, Jésus-Christ. Et par ce sacrifice sur la croix, Jésus-Christ vient racheter, vient purifier, vient créer un peuple. C'est ça qu'il vient faire. Je vous lis un passage rapidement. Dans 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11, on lit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? » C'est le sentiment d'Ésaïe lorsqu'il est dans la présence de Dieu. « Je suis impur, je suis un injuste. C'est impossible pour l'injuste d'accéder, d'hériter du royaume de Dieu. » Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Je ne vous connais pas tous très intimement, mais moi j'ai le goût de vous dire, chacun d'entre vous. Parce que je suis sûr qu'on peut trouver quelques-uns de ces péchés-là pour vous classer. Pour vous identifier, pour m'identifier. Mais vous avez été lavé, mais vous avez été sanctifié, mais vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alors voyez-vous, au nom de Jésus-Christ, quand je place ma foi en Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Dieu crée en moi un cœur nouveau. Dieu fait de moi son enfant. Dieu me lave, me purifie et tout ce que j'étais. Cette métaphore qui est l'esclavage en Égypte représente l'ensemble de nos péchés, de notre histoire et une identité nouvelle m'est donnée. Et Paul me dit ici dans Corinthiens que j'ai été lavé et que j'ai été sanctifié. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'on a dit la semaine dernière sur le mot lui-même dans l'hébreu, dans l'Ancien Testament, ce que ça signifie. Je l'ai rappelé tout à l'heure. Kodesh, ça signifie mis à part, mis à l'écart, consacré. Et donc, lorsque Dieu crée son peuple, il le lave, il le rachète et il le conduit à l'écart pour le consacrer. Pour le consacrer à son service, pour le consacrer à sa gloire. Si tu as placé ta foi en Jésus-Christ, ton cœur, ta vie, ton âme, ton temps, tes pensées sont consacrés à ton bien-aimé. Chérie, j'aimerais ça si tu viens de me rejoindre en avant. Juste un instant. Prendre une petite menthe. Esther et moi, cette année, on a célébré 22 ans de mariage. 22 ans. Lorsque nous nous sommes mariés, mon cœur a été consacré à Esther. Et son cœur m'a été consacré. Lorsqu'on sort, puis on se promène, puis on s'en va au festival de jazz, puis qu'on écoute un concert, puis que j'ai le privilège de me coller sur cette belle jeune femme-là, je sais que son cœur est à moi et que mon cœur est à elle. Alors les gars, je vous le dis, vous approchez pas. Hein? Je fais pas juste du karaté pour me mettre en forme. C'est aussi parce que j'aime les sports de combat. Son cœur est à moi et mon cœur est à elle. Et pour moi, ce n'est pas un fardeau à porter, ça. C'est une joie, c'est un privilège. Et donc, ça fait 22 ans, malgré toutes mes faiblesses, toutes les siennes, qu'on consacre à s'aimer, à se garder l'un pour l'autre, à chercher à se plaire mutuellement, à se consoler, à être là l'un pour l'autre. Mes yeux ne sont pas pour d'autres, ils sont pour elle seule. Merci, chérie. C'est ça ma relation avec Dieu. C'est ça la relation que Dieu veut avoir avec toi. Vois-tu pourquoi tu as besoin de réaliser non seulement que Dieu est grand, qu'il est merveilleux, pour trouver Dieu toujours aussi beau, toujours aussi extraordinaire après 10, 20, 30, 50 ans. Comme je trouve Esther belle, après 22 ans de mariage. Mais j'ai besoin aussi de réaliser qu'il s'est approché de moi et qu'il m'a aimé d'un amour passionnel jusqu'à mourir pour cet amour-là. Parce que cet amour est fondé dans son sacrifice. Croyez-vous que c'est lourd pour moi d'être consacré à Esther? Est-ce que ça avait de l'air lourd, là? Je faisais pas la comédie, je vous le dis. On utilise souvent l'expression « je me suis reconsacré ». Il faut que je consacre mon cœur à Dieu. À quelque part, c'est une erreur théologique super importante. Si tu as cru en Jésus-Christ, tu es déjà consacré. Tu lui appartiens déjà. Et tout ce que tu es appelé à faire, c'est vivre cet amour-là. Lui, qui ne peut se renier lui-même, lui te dit chaque matin quand tu te réveilles, « Mon bien-aimé est à moi et je suis à mon bien-aimé. » Alors, vous savez quoi, quand je me réveille le matin, je fais une confession publique ce matin, c'est très rare que ma première pensée va pour Esther. Ma première pensée va pour mon bien-aimé Céleste. Parce que l'amour que j'ai pour Esther, c'est une image, c'est une métaphore en attendant les noces célestes. Et Dieu t'appelle à vivre cette consécration-là. Ça vient orienter toutes sortes de choix. Quand Esther me dit « Chérie, est-ce qu'on sortirait ensemble ce soir? » Pourquoi pas? Un beau petit festival à Montréal, un bon concert ce soir. Hey, « Change mon horaire, j'écris aux anciens. Les gars, on a une réunion à 7 ans. Peux-tu mettre ça plus tôt? » Parce que les ados sont partis, ils travaillent dans des camps chrétiens cet été. Je vais sortir avec ma femme. Dieu t'a choisi, c'est un privilège extraordinaire. Et tu es consacré à le servir, à l'aimer, à le chérir, à le glorifier. Ne doute jamais du fait qu'il est près de toi et consacre-lui entièrement ton cœur, ton temps, ton énergie. Ce qui est extraordinaire dans les Écritures, parce que Dieu est invisible, il n'est pas là. Physiquement, je ne le vois pas. Mais tout le long des Écritures, on voit cette idée que Dieu veut être près de nous, qu'il doit se faire connaître à nous, que lorsqu'il choisit de se faire connaître à quelqu'un, c'est lui-même qui va venir racheter, purifier, laver, consacrer cette personne-là à cet amour-là, et plus jamais il ne va le quitter. Et donc, dans l'Ancien Testament, ça c'était illustré par le temple qui était là au début, par la présence, la nuée, la Shekina de Dieu qui était présente au milieu du peuple, mais ensuite de ça, par le tabernacle, par le temple. Et donc, Dieu voulait illustrer, « Mes regards seront toujours là au milieu de toi, Israël. » Mais encore une fois, Dieu avait à peine commencé à s'approcher de nous à ce moment-là. Parce que lorsque Jésus-Christ est venu, Emmanuel, Dieu parmi nous, il nous a fait une promesse absolument extraordinaire. Que son esprit allait demeurer en nous, habiter en nous. Songez-y un instant. Celui qui est Kodesh, celui qui est saint, celui qui est autre, celui qui est incomparable, a choisi de venir habiter en nous, au milieu de nous, par son Esprit Saint, par son Esprit. Le dernier passage dans Jacques. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi L'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Le Dieu très saint veut être près de nous. Celui qui est incomparable, majestueux, glorieux veut être près de toi. Est-ce que tu entends son appel? Est-ce que tu entends sa voix? Si c'est le cas, c'est son esprit qui est en train de t'attirer à lui. Et si tu as connu Jésus-Christ, parce que Jacques ici est en train de citer ça à des chrétiens, il s'est approché de toi. Il t'a consacré. Mais voilà, on demeure pécheurs. Nous sommes des êtres irrésolus, chambranlants, remplis de doutes. Comme tant de fois j'ai besoin d'entendre Esther me dire « Je t'aime ». Elle ne me le dira jamais assez, jamais trop. Et dans ce passage où Jacques s'adresse aux chrétiens et à l'Église, il dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Est-ce que dans ton expérience quotidienne, au quotidien, ces temps-ci, t'es obligé de lutter avec ces images farfelues de Dieu, ce Dieu qui est trop loin pour venir vers toi, où t'as besoin d'avoir ce petit Dieu-là qui va te sortir de tous tes petits pépins. Approche-toi de Dieu, comme tu es, et entends sa voix qui te dit, « Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. » On va prier ensemble avant de passer à la louange. Éternel, j'ai beau prêcher, j'ai beau enseigner, j'ai beau parler de ta grandeur, de ta splendeur, de ta majesté, j'ai l'impression d'être au pied du mont Everest et de ne voir qu'une toute petite partie de ta beauté. Une toute petite partie de ta grandeur, ta splendeur. Et pourtant, j'ai connu, Seigneur, j'ai connu que tu t'es approché de moi parce que j'ai connu Jésus-Christ. Seigneur, je t'aime. Je veux cultiver dans mon cœur cette pleine réalisation de ta grandeur, de ta beauté, de ta sainteté et de ta proximité avec moi, Seigneur. Chaque fois que j'ai des doutes, je veux retourner à l'Évangile, retourner à la croix pour me rappeler que c'est toi qui m'as créé, c'est toi qui m'as lavé, c'est toi qui m'as purifié, c'est toi qui m'as conduit au désert pour faire la conquête de mon cœur, Seigneur. Et là, je veux entendre, Seigneur, ton esprit me chuchotait à l'oreille. Mon bien-aimé est à moi et je suis à mon bien-aimé.